Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Dans ce numéro, nous parlons de transformation agricole en Afrique. Nous irons au Sénégal, sur la vallée du fleuve du Sénégal, donc, où l'on expérimente sur place la transformation du riz local. L'objectif à terme est de réduire les importations de cette denrée de base très consommée en Afrique subsaharienne. Vous aurez les détails, ce sera dans le Zoom Express. Johanna Monté est notre invitée de la semaine. Elle est l'organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit. Avec elle, nous parlerons des opportunités de business qui s'offrent entre les économies francophones et anglophones d'Afrique. Et notre destination éco nous mène en Angola. L'Angola, une économie importante en Afrique centrale et australe. Notre analyste Idriss Lindier nous en parlera en fin d'émission. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler d'artisanat féminin. Sur place, les femmes artisanes se lancent à la conquête du marché. Elles représentent plus de 22% des acteurs du secteur de l'artisanat. Le rôle de la gente féminine était d'ailleurs discuté lors de la 6e édition donc du marché ivoirien de l'artisanat. Plus de détails dans ce reportage depuis Abidjan de Zainab Dosso.
Elle martèle, tisse et fabrique. Souvent invisibles mais bien actives, les femmes artisanes en Côte d'Ivoire représentent 22,5% du secteur, même si beaucoup travaillent dans l'informel. Un paradoxe que le Women's Invest Club Côte d'Ivoire veut changer en aidant ses entrepreneurs à sortir de l'ombre grâce à la structuration, au financement et à l'accès au marché. La clé pour réussir, c'est la formalisation. Manon Karamoko Koulibaly, présidente de Women's Invest Club Côte d'Ivoire.
C'est très important. La première étape, c'est vraiment la formalisation. Et ensuite, il y a beaucoup d'accélérateurs, il y a divers accélérateurs, divers incubateurs qui vont les accompagner à structurer leurs entreprises pour qu'elles soient valides, pour qu'elles soient pérennes, pour qu'elles soient plus solides. Et à partir de là, maintenant, on peut parler de financement.
Les femmes ne manquent pas de talent, mais elles manquent souvent de moyens pour faire grandir leurs projets. Une réalité que connaissent aussi les autorités. Yao Silver Conan, directeur général de la promotion des PME.
4% des entreprises artisanales étaient formalisées et ces 4% produisent 9,2% du PIB artisanal. Ce qui veut dire que, en fait, quand vous êtes formalisé, vous produisez, c'est au moins deux fois le produit qu'on attend. Donc, c'est d'encourager les femmes à se formaliser parce qu'il y a un intérêt et parce que quand vous êtes formalisé, vous pouvez bénéficier de tout l'accompagnement.
Avec le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie, la journée de l'investissement au féminin est organisée en marge du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA 2025. Une plateforme pour permettre aux femmes de réussir dans leurs projets. Zainab Dosso, Abidjan, Mehdi 1.
Merci à vous Zainab Dosso depuis Abidjan.
Zoom Express.
Nous parlons de transformation agricole en Afrique et pour cela, nous allons sur la vallée du fleuve Sénégal où l'on expérimente sur place la transformation du riz local. L'objectif à terme est de réduire les importations de cette denrée très consommée en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Aissata Amadou Koundoul. Elle est la directrice de Ngalou Wealth of Nature. C'est une entreprise engagée dans la transformation du riz sénégalais et de la production de charbon écologique à base de balles de riz. Nous en parlons donc avec elle. Bonjour à vous, Aissata Amadou Koundoul.
Bonjour.
Alors, avec nous également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les investisseurs de la diaspora africaine. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, avec vous deux, nous allons parler donc de transformation, surtout du riz qui est très consommé. Avant de commencer, Moustapha El Bouri, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'importance de la consommation du riz en Afrique?
Oui, Omar, je pense que comme tout Africain qui se doit, le riz vraiment, il occupe une place qui est prépondérante dans toute la diète alimentaire des Africains. Le maïs se place en première position en termes de consommation, et le riz vient juste derrière, et ça représente pratiquement une vingtaine pour cent, voire 25 % du total des céréales consommées, le riz. Si on devait faire une dichotomie, je pense, au niveau du continent, sur les 54 pays, il y a une bonne quarantaine qui pratiquent la riziculture. Et la riziculture est vraiment la principale activité de source de revenus de ces pays-là. Et il faut noter aussi que c'est vraiment des petits riziculteurs sur le continent. Donc on a pratiquement une quarantaine de millions de petits riziculteurs en Afrique. Mais malgré tout ça, Omar, on continue à importer près de 50% de la consommation. En fait.
Près de 50% donc de la consommation en riz est importée. Alors, ce qui nécessite donc, ou en tout cas montre l'urgence d'avoir des acteurs locaux. Et parmi ces acteurs qui émergent, on a le cas de Ngalou Wealth of Nature, dont nous avons le plaisir d'avoir la patronne, donc Aissata Amadou Koundoul. Alors, Aissata Amadou Koundoul, parlez-nous de votre entreprise qui est active dans la transformation du riz local sur la vallée du fleuve Sénégal.
Comme vous l'avez dit, moi, je suis dans la transformation et la commercialisation du riz local. Mon objectif est de valoriser la production locale, réduire les importations et proposer un produit de qualité, un produit qui est accessible et traçable du champ à l'assiette. Voilà.
Donc, un produit transformé de qualité traçable donc du champ à l'assiette. Alors, cela dit, comment cela se passe de façon pratique? De façon pratique, quel est votre quotidien en tant qu'entreprise qui transforme le riz local?
Bon, je crois que vous l'aurez sans doute remarqué. Là, je suis dans une voiture en train de descendre sur le terrain. Maintenant, la manière dont je procède est que je vais vers des groupements de femmes qui, elles, sont directement dans la culture du riz. Auprès de ces groupements, j'achète le paddy. Elles transforment pour moi. Après, je supervise. Et après obtention de la qualité que je veux, je conditionne dans des sacs de 25 kilos que j'amène à Dakar et dans les régions pour revendre.
Donc, vous récupérez le riz qui est déjà cultivé. Justement, pensez-vous que la production est suffisamment importante pour pouvoir mener ces activités?
Oui, oui et non à la fois. Elle est suffisante parce que malgré le déficit, on arrive à couvrir les besoins de nos clients. Mais avec la vision que nous avons de réduire de manière importante les importations, la production est un peu faible. Maintenant, nous sommes en train de faire des plaidoyers. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Agriculture du Sénégal pour essayer de trouver des moyens afin de pouvoir vraiment couvrir tout ce qui est besoin tout au long de l'année de la population.
Alors, quels sont aujourd'hui les outils qu'il vous faut en tant qu'entreprise transformatrice du riz local pour réussir à assurer cette exigence de qualité?
C'est d'abord le passage à l'industrialisation. Parce que bon, nous avons une approche un peu différente. C'est qu'au lieu d'aller dans les usines, nous, on se rapproche des groupements, comme je l'ai dit, parce qu'on veut donner un produit de qualité. Seulement pour nous, la qualité que nous voulons, et pour aussi pouvoir assurer la disponibilité tout le temps, il nous faut un mécanisme, des riseries qui sont vraiment adaptées à la qualité que nous cherchons.
Alors, on va revenir vers vous dans quelques instants. Le temps de voir avec Moustapha El Bouri. Alors, quand on prend le cas donc de Ngalou Wealth of Nature, on voit que ça peut contribuer à faire baisser les importations. Justement, comment pourrait-on parvenir à réduire les importations de riz en Afrique et augmenter cette production locale?
Oui, Omar, c'est vrai que les importations sont très, très importantes. Et comme je disais précédemment, la production en Afrique, elle est principalement effectuée par des petits exploitants agricoles, des petits agriculteurs. Je pense déjà dans un premier temps, pour pouvoir vraiment et véritablement développer la production rizicole en Afrique de l'Ouest, il faudrait, je pense, déjà harmoniser toutes les barrières tarifaires. Hein, parce qu'aujourd'hui, ces petits rizicultures, en termes de tarifs, ne peuvent pas s'en sortir face à l'importance des importations qui sont faites d'Asie. Donc il faut harmoniser ces barrières de sorte à pouvoir rendre les filières qui sont locales plus puissantes, je dirais, face à ces filières apportées, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. À côté de cela, je pense qu'il faut aussi, l'un des points sur lesquels il faut travailler, c'est la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de l'eau. Bon, les rivières sont à côté des lacs ou des fleuves. Mais il faut maîtriser l'eau, il faut également développer de nouvelles stratégies de sorte à pouvoir, je pense, faciliter l'accès. Bon, je pense que Aïssata pourra renchérir là-dessus. Faciliter l'accès à tout ce qui est mécanisation, à l'ensemble des agriculteurs et permettre aux zones de réduire un peu toute perte qui sont post-récolte. Et améliorer la qualité du produit.
Alors, Aïssata Amadou Koundoul, directrice générale donc, de Ngalou Wealth of Nature, une entreprise engagée dans la transformation du riz local donc, de la vallée, la production de charbon écologique à base de balles de riz. Alors, pensez-vous que le public, votre clientèle, hein, entre guillemets, est-ce que le public africain consomme aujourd'hui ou est prêt à consommer le riz africain autant que celui importé?
Oui, oui, à 100%. Parce que, par exemple, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce à la sensibilisation que nous menons, déjà que les Sénégalais commencent petit à petit à adopter la consommation locale, parce que la population a compris l'enjeu qui est derrière. Déjà, pour consommer un produit qui est produit localement, non seulement que vous êtes sûr de la qualité, mais aussi la population a compris l'enjeu économique derrière. Parce que grâce à la consommation locale, la population participe activement à l'économie de ce pays. Et oui, actuellement, avec les retours que nous avons et aussi avec les engagements que nous avons envers les clients de consommer tout ce que nous produisons, on peut dire qu'on a réussi ce point.
En tout cas, cela montre le potentiel et les perspectives prometteuses donc, de cet objectif de réussir donc à satisfaire la consommation locale à travers du riz local. Merci à vous, Aïssata Amadou Koundoul. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Ngalou Wealth of Nature, spécialisée donc dans la transformation du riz local. Vous nous parliez depuis le Sénégal. Ce fut un plaisir de vous avoir, ainsi que Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Coémergence, l'invité.
Johanna Monté est notre invitée de la semaine. Elle est l'organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit. Avec elle, nous allons parler des opportunités de business qui s'offrent entre les économies francophones et anglophones en Afrique. Bonjour à vous, Johanna Monté, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Alors, récemment, vous venez d'organiser une nouvelle édition de cette conférence, donc Africa, Francophone Africa Business Summit, c'était au Nigeria. Alors, parlez-nous-en d'abord.
Alors, en fait, c'est une conférence qui veut vraiment, comme on dit, bridger le gap. Ça veut dire, en fait, créer un pont entre l'Afrique francophone et anglophone au niveau business. La vérité, c'est qu'il y a énormément de conférences que l'on voit sur le continent. Simplement, il faut que ce soit des conférences. On essaie en tout cas de venir avec un concept qui permet de créer de réels échanges pour les acteurs de l'économie réelle. Donc pas simplement pour les méga acteurs, mais vraiment pour les PME qui font quand même la majeure partie du tissu économique de nos économies, aussi bien francophones que anglophones, mais qui malheureusement ne communiquent pas assez et du coup ne sont pas en mesure d'utiliser les leviers qui s'offrent à elles en termes d'opportunités cross-border, donc d'un pays à l'autre.
Alors,
voilà.
Alors, cela dit, quel est justement aujourd'hui l'état de la connexion en termes de business entre l'Afrique anglophone et francophone?
C'est une bonne question. En fait, quand vous regardez les statistiques, hein, on dit qu'à peu près, de manière générale, sur le business intra-africain, on est sur 14%. Donc, c'est-à-dire que 14% des échanges se font entre pays africains, contre 60% entre, par exemple, l'Afrique et l'Asie ou l'Afrique et l'Europe. Donc, on voit que de manière générale, on commerce très peu entre nous-mêmes. On préfère aller beaucoup plus loin et donc ça crée des problèmes d'effet de gaz à effet de serre, etc. Mais de manière plus générale, on manque des opportunités de commercer entre nous, en réalité.
Alors, et comment évolue ce commerce-là? Est-ce que sur la base aujourd'hui du développement technologique, des exigences frontalières entre pays voisins, pensez-vous que les choses sont en croissance ou plutôt stagnent?
En fait, effectivement, vous mettez le doigt sur un point très sensible, qui est de dire que le commerce entre nos pays n'est pas forcément facilité. Donc, il y a forcément une raison, et c'est sans doute la raison principale qui fait que, ou en tout cas l'une des raisons qui fait que, justement, il est parfois plus simple d'envoyer quelque chose en Chine que de l'envoyer dans un pays de la région, vous voyez. Donc, on a vraiment ces problèmes infrastructurels très importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était l'un des points de la conférence. On avait vraiment une discussion sur les infrastructures régionales qui sont finalement peu existantes. Et de dire comment est-ce qu'on on fait pour justement commercer plus entre nous si nous n'avons pas d'infrastructure pour commercer. Alors évidemment, le problème c'est que même de manière nationale, il y a déjà parfois des problèmes d'infrastructure sérieux. Donc après, c'est vrai que c'est difficile pour les États d'envisager des infrastructures régionales qui pourtant sont indispensables pour justement motiver plus de commerce régional.
Alors on parle souvent de cette différence qui existe entre ces deux Afriques, elles ne sont pas que, il n'y a pas que ces deux Afriques-là, bien évidemment, mais entre le monde africain francophone et anglophone. Quelles sont justement ces différences-là?
En fait, c'est un point très intéressant. En fait, il y a des différences culturelles qui sont certaines, mais dans le bon sens. Ça veut dire que, et vraiment pour transacter beaucoup, donc moi je suis avocate d'affaires avant tout, hein. Donc on fait énormément de transactions entre l'Afrique francophone et anglophone, et on voit bien qu'il y a vraiment des opportunités d'apprendre justement, parce qu'il y a le pragmatisme anglophone qui est bien connu et qui se voit vraiment dès la première transaction. Vous voyez à quel point ils vont droit au but, les transactions vont beaucoup plus rapidement, les discussions sont beaucoup plus rapides et droit au but. Et d'ailleurs même la documentation d'investissement est beaucoup plus simple. En pays francophone, donc de tradition civil law, de droit civil, c'est un peu plus long, voyez. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de choisir des systèmes juridiques qui sont pesants. En réalité, les parties d'un contrat ont le choix quant à la juridiction à laquelle ils veulent soumettre leur contrat. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a des instruments pour faciliter le commerce entre nous et on peut s'inspirer des pays, des autres pays, notamment Afrique anglophone. Et par contre, c'est vrai que les Africains francophones sont connus pour leur technicité, par exemple. Donc, du coup, les anglophones aiment bien, prendre quelques francophones dans leurs équipes. Vous verrez au Nigeria qu'il y a beaucoup de, par exemple, Camerounais, Ivoiriens, etc., qui sont des postes à des postes très importants parce que, justement, les anglophones apprécient la technicité des francophones. Vous voyez qu'il y a donc il y a vraiment des points de convergence importants dont nous pourrions nous inspirer plus.
Alors, en termes, vous parlez donc de ces différences d'approche, mais qu'en est-il de la législation? On sait qu'il y a l'OADA qui regroupe pas mal de pays francophones, par exemple, en Afrique. Qu'en est-il de l'uniformité du business dans le monde anglophone?
Alors, c'est vrai que nous, on a quand même un grand avantage qui est d'avoir l'OADA, qui fait que même si le système n'est pas toujours le plus évident à comprendre, au moins c'est un système pour 17 pays. Et ça, c'est quand même très intéressant. Maintenant, dans les pays anglophones, il faut savoir qu'eux, même s'ils n'ont pas un système pour un nombre de pays et qu'ils ont véritablement un système par pays, ça reste malgré tout une inspiration très common law, donc du droit anglais. Ça veut dire que d'un pays à l'autre, quand même, on sait qu'on va avoir des ressemblances sérieuses parce qu'ils ont la même inspiration. Donc on va dire que ça paraît plus effrayant parce que chaque pays vient avec son système juridique, mais finalement, c'est des systèmes qui se ressemblent dans les pays anglophones. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est vrai que du pays anglophone à francophone, on a vraiment deux systèmes différents. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de différences, notamment en termes d'approche, parce qu'évidemment, c'est des héritages bien différents. Mais ça se dompte assez facilement, sachant qu'en réalité, en Afrique, il n'y a pas énormément de systèmes juridiques. Hein. C'est finalement civil law, common law, Et dans quelques pays, vous avez du droit romain, mais c'est pas, y a pas 36 milliards d'options non plus. Donc, c'est pas si difficile que ça à comprendre, on va dire.
En tout cas, c'est intéressant à noter. Merci à vous, Johanna Monté. Je rappelle que vous êtes avocate, mais surtout organisatrice de la conférence francophone Africa Business Summit qui vient de se tenir récemment au Nigeria. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, merci beaucoup.
Destination Éco.
Notre Destination Éco nous mène cette semaine en Angola. L'Angola, une économie importante et stratégique en Afrique centrale et australe. Notre analyste Idriss Lingier, directeur de rédaction de Media Mania, nous présente l'économie angolaise, son potentiel, ses défis, mais aussi les perspectives qui s'y annoncent. Écoutons Idriss Lingier.
Alors, l'Angola est une excellente économie. C'est un pays pétrolier, essentiellement. Et selon les dernières estimations du FMI, normalement, on devrait assister à une croissance de 3%. Les autorités sont en train de travailler à diversifier l'économie pour ne plus totalement dépendre du pétrole. Et ces réformes-là sont en cours. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de dire que un des segments, c'est de développer le secteur énergétique. Le secteur énergétique en termes de production d'électricité. D'ailleurs, dans ce sens, je pense qu'un contrat a été signé avec une entreprise marocaine, Somagec, qui va développer une production d'électricité avec éventuellement une perspective hein, dans les prochaines années à les vendre du côté de la RDC ou de la Zambie, qui sont des pays miniers. Donc, voilà, l'Angola reste une économie assez intéressante. On ne la connaît que pour le pétrole, mais on oublie que c'est un pays qui a aussi d'importantes terres agricoles. C'est un pays qui a besoin de construire des logements. C'est un pays où la consommation agroalimentaire a encore besoin qu'il y ait davantage d'offres au niveau local. Donc, globalement, c'est ça. Alors, selon le FMI, contrairement à ce qu'on pensait, la croissance pourrait atteindre 3% cette année 2025. L'inflation devrait continuer de reculer et le pays a mis des réformes qui lui permettent de générer suffisamment d'espace budgétaire afin de soutenir les dépenses de développement.
Merci à vous, Idriss Lingier. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.